À la une, le forum économique sur la Nouvelle-Calédonie qui se tenait à Paris et à Nouméa hier soir. Les participants sont globalement satisfaits des annonces de l'État pour soutenir le territoire. C'est Christopher Gigès qui était vendredi l'invité du magazine Transparence. Le porte-parole du gouvernement en charge de plusieurs secteurs économiques est revenu sur l'objectif de l'exécutif, redonner de l'attractivité à la Nouvelle-Calédonie. À l'international, Marine Le Pen présente à Madrid pour un meeting de la droite conservatrice européenne, l'occasion de surfer sur la vague Trump et de défendre un virage à 180 degrés de l'UE. La libération de 3 nouveaux otages israéliens par le Hamas, leur état de santé est jugé mauvais. Voilà à quoi ressemble un crime contre l'humanité, a déclaré le président israélien après les images choquantes de leur libération. Le sport du rugby, un crunch au goût amer. Le 15 de France tombe à la dernière minute en Angleterre. 26 à 25 dans le tournoi Destination, il ne pourra pas faire le grand chelem cette année. Un titre de championne de France d'athlétisme pour Esther Wedjiem. Elle s'est imposée en finale du 200 mètres en indoor. Et la sélection calédonienne de football des moins de 20 ans lance sa préparation en vue du mondial de 2025. Les Cagous partiront au Chili au mois de septembre. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. C'est une importante séance de travail qui s'est déroulée hier à Bercy et à Nouméa. Le forum économique sur la Nouvelle-Calédonie s'est déroulé au ministère de l'économie et des finances et en visioconférence à l'auditorium de la CCI à Nouméa. Après un mot d'introduction du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, c'est la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a ouvert les travaux de ce forum qui était très attendu, Lionel Sabot.
Amélie de Montchalin qui a tout d'abord rappelé le soutien sans faille de l'État et notamment tous les dispositifs mis en œuvre depuis les violences insurrectionnelles de mai ainsi que ceux inscrits dans le budget de l'État pour 2025. La ministre qui a par ailleurs déclaré que la mobilisation financière exceptionnelle de l'État pour la Nouvelle-Calédonie en 2025 doit amorcer une nouvelle dynamique pour l'économie, bien évidemment, mais aussi plus largement pour l'avenir du territoire. Amélie de Montchalin qui a affirmé hier que le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie ne se démentira pas dans les années à venir.
D'abord, peut-être rappeler le soutien sans faille de l'État à la Nouvelle-Calédonie dans les situations d'urgence, que ce soit pendant la crise sanitaire du Covid, pendant la crise qui a touché le territoire en mai dernier, je vais y revenir, ou dans le cas de la relation entre l'État et la collectivité de Nouvelle-Calédonie. C'est pour moi un motif de fierté et d'espoir que de voir que les liens entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie, sur toutes ces dimensions, sont à la fois des liens continus et des liens solides. Donc je veux le dire ici vraiment avec force et avec solennité, nous sommes à vos côtés et je veux vous redire l'admiration que nous avons pour la force, la résilience remarquable dans cette période particulièrement éprouvante qui force notre admiration et qui, je crois, explique la grande détermination de cette solidarité nationale à se poursuivre. L'accompagnement de l'État, on le voit, ne s'est pas démenti et il ne se démentira pas dans les prochaines années. Il y a un précepte que je m'applique très profondément, c'est celui de l'optimisme, de la volonté. Et en vous voyant et en nous voyant ce matin, je suis, je crois, ici persuadée qu'il y a une réelle volonté d'agir et qu'à ce titre, nous pouvons être optimistes pour la Nouvelle-Calédonie.
Après une prise de parole d'Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, depuis Paris, les travaux se sont poursuivis à huis clos pendant près de 3 heures. À l'issue de ces discussions, c'est Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui a prononcé le discours de clôture, rappelant, pour débuter son propos, que l'État avait conscience des enjeux pour la Nouvelle-Calédonie.
Nous n'ignorons rien de la situation particulièrement difficile dans laquelle le territoire est aujourd'hui placé. Les événements qui se sont déroulés à partir du 13 mai ont été dramatiques. D'abord, il ne faut jamais l'oublier, parce que le sang a de nouveau coulé en Nouvelle-Calédonie. Et puis, de nombreuses infrastructures, entreprises et emplois ont été détruits. L'économie de la Nouvelle-Calédonie, et cela m'embête évidemment de le redire, de le souligner, car nous devons faire passer aussi un message d'optimisme, mais incontestablement est dévastée. Les indicateurs de l'IEOM sont parlants, même s'ils indiquent aussi la petite lumière au bout du tunnel.
Manuel Valls a ensuite fait part de 3 de ses convictions, évoquant un moment charnière de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, avec la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel.
La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relèvement économique sans un compromis politique. Tout comme il ne peut pas y avoir de solution politique durable sans relèvement économique. La seconde, c'est que l'avenir du territoire peut et doit s'écrire avec toutes les forces vives, donc avec le monde économique, avec les partenaires sociaux. Et pour bâtir cet avenir, nous devons être très attentifs à la solidarité. Et nous devons être peut-être encore plus attentifs à l'avenir de la jeunesse. Les violences de mai dernier, au-delà des soubassements politiques, sont un signal d'alerte. Et ce signal d'alerte, il concerne tout le monde. Et la troisième conviction, c'est que l'État doit être présent pour que le marasme économique ne puisse pas se transformer en désastre social, qui lui-même accentuerait les fractures politiques. Le soutien de l'État, des territoires touchés par des phénomènes naturels, c'est le cas Mayotte, ou par des phénomènes surnaturels, c'est-à-dire humains, en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes présents, malgré l'état de nos finances publiques.
Manuel Valls a ensuite passé en revue les enjeux pour le territoire et notamment la mise en place de réformes robustes concernant les dépenses publiques, le système de santé ou encore l'accompagnement de filières structurantes pour le territoire à l'image du nickel, des nouvelles technologies ou encore du tourisme. Manuel Valls qui a également tenu à évoquer la place de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional. Pour le ministre des Outre-mer, il est clair qu'économie et politique sont intimement liées et qu'ils sont deux piliers essentiel pour relever les défis nombreux qui apporteront de la stabilité au territoire.
Les échanges que nous avons pu avoir ce matin dessinent l'ampleur des défis qui se présentent nous. Moi, j'en prends toute la mesure et je le redis avec gravité, mais nous devons y aller avec beaucoup de détermination. Nous devons être ensemble au rendez-vous du moment historique que nous vivons. Il faut un accord, un compromis, un chemin politique commun pour soutenir l'économie et pour tous les Néo-Calédoniens, pour tous, un avenir institutionnel qui donne de l'espoir à tous nos compatriotes calédoniens pour la paix, pour la concorde, à travers le consensus. Et vous avez bien compris que le gouvernement de la France sera à vos côtés, quoi qu'il arrive. Nous prendrons absolument nos responsabilités. Dans quelques semaines, le calque est en cours, j'aurai l'honneur et le plaisir de me rendre en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre les discussions politiques, les négociations, j'espère, et pour évidemment évoquer les questions que nous avons traitées ce matin.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, lors de son intervention pour la fin de ce forum économique. Alors, on le disait il y a quelques instants, ce forum s'est tenu en deux lieux, Paris et Nouméa, en visioconférence. Ce matin, dans notre journal, à 7h, vous avez pu entendre les réactions de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, de Stéphane Iotto, élu à la CCI, et de Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, qui ont participé à ce forum depuis Nouméa. Ce midi, nous vous proposons d'entendre les réactions des participants qui étaient au ministère de l'économie et des finances hier lors de ce forum. Réaction tout d'abord du député Nicolas Metzdorf qui salue le format de cette rencontre dans un contexte politique en métropole très particulier ces dernières semaines.
Je pense que ça va permettre en fait d'avoir une meilleure coordination dans ce qui est voté à la fois à Paris et ce qui est voté aussi à Nouméa dans les mesures qu'il faut prendre pour relancer l'économie. Donc aujourd'hui on voit qu'on relance la coordination entre nous, tant mieux. On va pouvoir, je pense, améliorer le quotidien des Calédoniens si on arrive à se mettre d'accord sur les questions économiques. Ce qui va se mettre en place dans les semaines à venir, c'est ce format un peu plus restreint qui va continuer, qui va faire vivre le dialogue, l'échange, pour que à la fois les mesures que l'on prend au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et celles que l'on vote à l'Assemblée nationale ou au Sénat soient cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire que nous, on réclame un soutien massif de l'État, évidemment, et une baisse des dépenses publiques en Nouvelle-Calédonie. On est contre l'augmentation des impôts sur notre territoire, compte tenu de la situation, évidemment. Donc, je crois que tout le monde l'a compris aujourd'hui et c'est ce qu'il fallait faire.
La satisfaction également à l'issue de ce forum de Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, qui souligne le fait que de très nombreux thèmes ont pu être abordés. La présidente de la province Sud qui attend la matérialisation des engagements qui ont été pris lors du forum.
D'abord, je pense que c'est bien que ce forum ait eu lieu parce qu'il y a des problématiques graves en Nouvelle-Calédonie, d'assurance, de réassurance, de financement des collectivités publiques qui génèrent des problèmes sociaux importants et urgents. Et donc, c'était important de tenir ce forum. Il y a eu des réunions de préparation en amont qui permettent de lever un certain nombre de problématiques. Les conclusions du ministre Valls sont encourageantes. Maintenant, on attend évidemment la matérialisation de l'ensemble des engagements. Je retiens l'intervention du cabinet du ministre de l'économie qui nous a indiqué travailler sur un fonds d'État sur la réassurance, ce qui est très attendu par les acteurs. Évidemment, le financement des collectivités accompagnera le redémarrage. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on arrive à donner les outils au monde économique pour recréer de la richesse. L'objectif, ce n'est pas que l'État continue à accompagner, à tenir la main de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif, c'est bien évidemment de retrouver notre autonomie financière. Et pour ça, on a besoin que les entreprises puissent redémarrer. Donc c'est cet accompagnement dont on a besoin.
Présent également hier au ministère de l'Économie et des Finances à Paris, Alcide Pongal, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il avait pris la parole en ouverture des travaux à la suite de la ministre chargée des comptes publics. Et à l'issue de cette rencontre, qui aura duré donc près de 3 heures, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie saluait l'émergence d'une forme de consensus.
La situation économique, elle ne peut pas être déconnectée de la discussion politique et institutionnelle, parce qu'on ne peut pas réussir l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Et donc ce que je retiens, c'est qu'on est quasiment à l'unanimité d'accord sur le constat et sur l'aide que tout le monde doit apporter à la Nouvelle-Calédonie et notamment de l'État. Il est clair là-dessus qu'il y a pu y avoir des petites incompréhensions et qui persistent encore, mais il va falloir discuter, travailler l'ensemble des collectivités, qu'elles soient calédoniennes ou nationales, qu'on puisse échanger et trouver des pistes pour poser les choses et avancer sereinement là-dessus, parce que nous devons tous travailler à la relance de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie. Si on n'y arrive pas, j'ai bien peur qu'on puisse se planter et qu'on plante également toutes les discussions autour.
Des réactions recueillies par Xavier Robert, notre correspondant à Paris, à l'issue de ce forum économique, qui semble donc avoir satisfait l'ensemble des participants, qu'ils aient été à Paris ou à Nouméa.
Revenons à présent, Lionel, sur les annonces qui ont été faites par la ministre en charge des comptes publics, Amélie de Montchalin, en ouverture de ce forum économique. Deux annonces très précises concernant les communes du territoire.
Et parmi ces annonces, une garantie de l'État pour les prêts attribués aux communes par l'Agence française de développement, la FD, pour un montant d'1 milliard d'euros, 8 milliards 330 millions de francs sur 3 ans. Écoutez Pascal Vittori, c'est le maire de Bouloupari. Il est aussi le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie. Et vendredi, dans une lettre ouverte, il avait demandé à ce que l'État garantisse justement les futurs emprunts contractés par les communes de Calédonie.
Ça, c'est une mesure très importante. C'est celle que je défendais au nom de l'Association française des maires, parce que c'est cette mesure qui va permettre aux communes d'emprunter et donc de pouvoir lancer des investissements et donc redonner des travaux à faire aux entreprises calédoniennes, puisque j'avais été alerté par la fédération du BTP qui m'indiquait que les carnets de commandes étaient vides, que les entreprises ne pouvaient plus tenir et qu'on risquait de perdre à nouveau 2 à 3 000 emplois. C'est très important parce que les communes sont les collectivités qui sont capables d'investir le plus rapidement et qui ont le meilleur taux d'exécution de leurs travaux. On peut très rapidement débloquer des budgets, lancer des travaux et donner de l'activité. C'est pour ça que pour la relance économique de la Nouvelle-Calédonie, c'est fondamental que les communes puissent accéder à ces prêts. Et je remercie encore l'État, le ministre Valls qui s'était engagé sur le sujet auprès de moi, et Madame Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics.
Et j'ajoute qu'Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics, a également annoncé hier soir le déblocage de 200 millions d'euros, soit un peu plus d'1 milliard 600 millions de francs pour la reconstruction des écoles qui ont été incendiées ou vandalisées lors des émeutes du mois de mai 2024.
Un mot encore, Lionel, à propos cette fois-ci des discussions sur l'avenir institutionnel qui se poursuivent à Paris.
Ah, hier soir pour nous, la délégation du Rassemblement et celle des loyalistes ont été reçues ensemble par le ministre des Outre-mer, Udino. Depuis le début de la semaine, peu de choses ont filtré des différents entretiens qu'Emmanuel Valls a eu avec les différentes délégations. Toutefois, le ministre des Outre-mer pourrait faire une synthèse de ces différentes rencontres en début de semaine. C'est en tout cas ce que laissait entendre Virginie Rufnac, que vous avez pu entendre ce matin dans le journal à 7h. Quant à la venue du ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, Virginie Rufnac évoquait une date autour du 20 février.
Reparlons économie. L'attractivité de la Nouvelle-Calédonie est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. C'est ce qu'affirme Christopher Gigès, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence.
Christopher Gigès, qui est le porte-parole du gouvernement, présidé par Alcide Ponga. Il a aussi la charge de nombreux secteurs. L'économie, le commerce extérieur, la fiscalité, le travail, l'emploi, l'énergie et le numérique. Et enfin, les sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Un secteur dont la mission est de faire revenir maintenir les gens sur le territoire ou de les convaincre de rester. Et c'est un objectif qui est clairement affiché.
Avec ce qui s'est passé, on voit que l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, elle a pris un coup. Mais néanmoins, on a encore des atouts extrêmement forts en Nouvelle-Calédonie pour faire rester les gens ici, parce qu'on a un territoire qui dispose d'énormément d'atouts. Mais on doit mettre en place un plan d'attractivité à la fois pour les investisseurs, comment on fait revenir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie, comment on leur garantit la sécurité de leurs investissements et la rentabilité de leurs investissements, quel type de consommateurs on peut faire revenir en Nouvelle-Calédonie avec des avantages fiscaux. Je pense à des retraités européens qu'on pourrait faire venir en Nouvelle-Calédonie en contrepartie d'un avantage fiscal, faire venir des talents avec des dispositifs particuliers sur des filières, sur la partie médicale. Et donc ça, il fallait l'afficher comme objectif prioritaire du gouvernement parce qu'on a des atouts qui n'ont pas bougé. On est le dernier territoire européen de la zone et français avec des règles de droit qui s'appliquent. On a une position géographique qui n'a pas bougé avec les émeutes, une place géostratégique dans la région et on a des infrastructures qui sont parmi les plus développées de la région. Donc on a tous les atouts pour mettre en place une politique d'attractivité, à nous de la mettre en place.
Parmi les secteurs dont Christopher Gigès a la charge, celui de l'économie, il lui a été demandé un état des lieux et il reconnaît que c'est compliqué.
Elle a été très impactée. On a plus de 700 entreprises qui ont été incendiées. On a eu en tout cumulé plus de 20 000 personnes qui ont touché le chômage partiel. On a environ 100 milliards de dégâts dans le secteur privé. Mais on voit qu'il y a des entreprises qui ont des vrais problèmes de trésorerie. Et j'ai souhaité vraiment, dès la prise de mon mandat, pouvoir rencontrer l'ensemble des représentants des entreprises. Il faut que je continue à faire le tour sur un certain nombre de syndicats professionnels. Tous me disent que la situation est très complexe. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui continuent à investir. Il y a des gens qui continuent à y croire. Et notre devoir, au-delà de ça, c'est d'être à leur côté dans la reconstruction et d'être à leur côté pour leur dire on va être là pour reconstruire, on va être là pour vous donner un cadre économique qui vous donne de la visibilité, un cadre fiscal qui amène de l'attractivité au niveau local et qui ne punit pas ceux qui créent de la richesse. Et donc vraiment notre job c'est ça, c'est-à-dire que le constat est compliqué mais l'engagement qu'on a, et ça sera dit dans la déclaration de politique générale, c'est d'être aux côtés des entrepreneurs pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie et reconstruire encore mieux notre système économique.
Et pour permettre la reconstruction et la relance de l'économie, Christopher Gigès préconise notamment un choc de simplification du modèle économique calédonien. Il a écrit en ce sens à toutes les directions pour leur demander de faire des propositions.
On a des réglementations qui s'appliquent où l'administration elle-même dit qu'elle ne sert à rien. On demande des pièces qui ne servent à rien. Donc simplifions, faisons un portail unique pour les entreprises et toute la réglementation qui est superflue, qu'on simplifie. On est 270 000, je pense qu'on peut faire beaucoup plus.
Parce que ça fait longtemps qu'on en parle de la simplification, hein, franchement. Ouais, la crise, l'électrochoc du 13 mai va permettre de vraiment le concrétiser.
Il faut que les crises servent à quelque chose. Donc j'espère que ça servira à ça. Vous savez, je parlais tout à l'heure du Covid. J'ai vu qu'on était sorti du Covid quand on a commencé à me dire que les choses étaient plus possibles à faire. Bizarrement, pendant le Covid, les procédures administratives s'étaient simplifiées, ça gênait personne et ça marchait très bien.
Et parmi les mesures de simplification envisagées, est celle qui prévoit que le silence de l'administration vaut accord. Concernant les aides de l'État, Christopher Gigès déclare qu'il est normal que la Nouvelle-Calédonie fasse des efforts, mais il n'est pas question pour autant d'augmenter la pression fiscale.
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas augmenter la pression fiscale sur les entreprises, sur les Calédoniens. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui se posent la question, quand ils vont toucher leur indemnité d'assurance, est-ce que je vais rester en Nouvelle-Calédonie et réinvestir ou est-ce que je vais capter cette manne et peut-être partir ailleurs? Si on leur dit on va augmenter les impôts, je connais la réponse qu'ils vont avoir. Donc très clairement, faisons un système fiscal attractif, compétitif, qui permet d'accompagner la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie et que les efforts que nous menons agissent sur les dépenses publiques et les dépenses des différentes collectivités. Là, dépenses santé sociale également. Et c'est sur ça que la Nouvelle-Calédonie peut faire des efforts, sur baisser son train de vie en faisant des fusions qui ont été identifiées sur un certain nombre d'organismes. Il y a des organismes qui ne servent plus à rien, il y a des aides qu'on ne peut plus faire. Et donc, agissons sur les dépenses publiques, mais surtout, préservons les Calédoniens de l'augmentation de la pression fiscale.
Et comme membre du gouvernement en charge de la fiscalité, il s'engage à ne proposer aucune augmentation d'impôts. Christopher Gigès a aussi été interrogé sur le prêt de 120 milliards de francs pacifiques accordé à la Nouvelle-Calédonie, un prêt qui est désormais validé après l'adoption du budget de l'État.
C'est une très très bonne nouvelle parce qu'on l'avait obtenu à l'époque quand on avait été à Paris et qu'un jour plus tard, il y avait la motion de censure et tout était remis en cause. Donc là, que ces 120 milliards soient actés, ça nous donne de la visibilité pour mettre en place le différent financement des collectivités et que les collectivités continuent à fonctionner, de permettre aux régimes sociaux de continuer à fonctionner et de mettre en place différentes mesures en lien avec la relance économique et la reconstruction économique. Et surtout, ça nous donne de la stabilité et de la visibilité.
Et l'accompagnement de l'État est vital, déclare encore Christopher Gigès. Une interview qui sera rediffusée ce soir, ce sera juste après notre édition de 17h45. Interview qui est également disponible en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Merci Lionel Sabot. Il est midi passé de 20 minutes, on va marquer une courte pause avant d'évoquer l'actualité nationale et dans le monde. Make Europe Great Again, c'est le clin d'œil à Donald Trump, choisi par les conservateurs européens qui étaient réunis à Madrid. À tout de suite.
Taneo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site taneo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
Nettoyez les rivières, protégez les captages, installez des compteurs, sensibilisez les Calédoniens. C'est être acteur de la gestion de l'eau. Vous pouvez bénéficier du fonds de soutien à la politique de l'eau partagée. Plusieurs dispositifs existent. Plus d'infos sur le site eau.nc. L'eau est une richesse à partager. Ensemble, agissons pour la préserver.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début d'après-midi à la suite de votre journal. On retrouve Michael Juneski.
Le meeting des leaders du groupe parlementaire Patriote pour l'Europe se tenait à Madrid avec un mot d'ordre, Make Europe Great Again, une référence au slogan de Donald Trump. La force de l'Europe, c'est la force de ses nations, a notamment déclaré la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, qui était sur place accompagnée notamment de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, ou encore du vice-premier ministre italien Matteo Salvini. Marine Le Pen qui cherche à se placer au cœur de ce nouvel élan politique. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Et c'est une démonstration de force et d'union. Marine Le Pen veut montrer qu'elle peut dorénavant s'appuyer sur de nombreux soutiens européens, notamment pour peser sur les relations internationales, car selon l'ancienne candidate à la présidentielle, seuls eux peuvent négocier avec Donald Trump.
Je pense pouvoir dire qu'on est peut-être les mieux placés en France pour pouvoir parler à l'administration de Donald Trump, avec lequel nous ne serons pas toujours d'accord, bien entendu. Mais nous sommes les mieux placés parce que nous savons qu'est-ce qui les motive.
La parole d'Emmanuel Macron serait donc totalement démonétisée, selon Marine Le Pen. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a également profité de ce déplacement pour tacler François Bayrou et Gérald Darmanin, qui souhaitent un débat sur le droit du sol.
Non mais stop, on n'est plus au niveau du débat là. Vous voyez, ça fait 25 ans qu'on débat de ça, ça commence à bien faire. Et il y a une chose qui est mieux que le débat, c'est le vote. Voilà. Alors s'il veut, il fait un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord pour le projet de loi supprimant l'acquisition de la nationalité par le droit du sol?
Emmanuel Macron prendra la parole demain soir et devrait être interrogé sur sa volonté ou non de recourir au référendum cette année.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui doit prendre la parole donc, vous l'avez entendu, ce sera demain matin pour nous lors d'un entretien annoncé comme inédit sous la verrière du Grand Palais, le chef de l'État qui devrait notamment détailler la position de la France quant à l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire à la veille du sommet pour l'action sur l'IA qui doit s'ouvrir à Paris. Le président de la République doit clarifier la position française. Par ailleurs, alors que François Bayrou a échappé à deux motions de censure cette semaine permettant l'adoption du budget de l'État pour l'année 2025, Emmanuel Macron pourrait être amené à réagir aux difficultés rencontrées par le Premier ministre contraint de composer avec l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État qui pourrait donc prochainement annoncer la tenue d'un référendum. L'actualité à l'étranger est dominée par la libération de trois nouveaux otages israéliens. Une libération dans une mise en scène cynique de la part du Hamas. L'état de santé de l'un des otages est jugé très préoccupant après sa captivité. Il se trouve en état de détresse nutritionnelle. Leurs proches étaient tout de même soulagés de pouvoir enfin les retrouver.
C'est vraiment dur, il n'a pas l'air bien, mais je suis sûre qu'il va maintenant recevoir le bon traitement et tout le monde va veiller sur lui. Il a une famille extraordinaire et nous serons tous là pour lui.
Ça a été vraiment très dur de le voir comme ça. Il ne se ressemble plus. On voit qu'il a énormément souffert durant tout ce temps où il n'a pas été à la maison.
Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé. Voilà à quoi ressemble un crime contre l'humanité. Quant à Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, il a déclaré « Nous éliminerons le Hamas et ramènerons nos otages. Les images choquantes que nous avons vues aujourd'hui ne resteront resteront pas sans réponse. Il a par ailleurs annoncé l'envoi de négociateurs au Qatar pour discuter de la suite du fragile cessez-le-feu. En échange de la libération de ces trois otages israéliens, aujourd'hui, 183 prisonniers palestiniens ont été libérés par l'État hébreu. Il s'agissait du cinquième échange entre Israël et le Hamas depuis le début du cessez-le-feu. En bref, à l'étranger encore, les trois pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, se coupent du réseau électrique russe pour empêcher Moscou d'en faire une arme contre eux. Ils étaient reliés à ce réseau depuis l'époque de l'URSS. Depuis 2004, ils ont intégré l'Union européenne ainsi que l'OTAN. Il est midi passé de 25 minutes. Restez avec nous. Une dernière page de pub et on parle sport et la déception du 15 de France de rugby qui s'incline à Twickenham.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Mickaël Juneski.
Et du rugby avec la suite du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et la deuxième journée de compétition marquée par cette déception pour le 15 de France. Il s'est incliné sur le fil contre l'Angleterre à Twickenham. Défaite des Bleus 26 à 25. Christopher Filhoc pour Europe 1.
C'était le premier vrai test pour les hommes de Fabien Galthié une semaine après leur large victoire inaugurale face au Pays de Galles. Le 15 de France, maladroit, cet après-midi n'a pas su confirmer après avoir mené au score pourtant pendant 70 minutes dans un match engagé à crochet nerveux. Les Bleus ont fini par être crucifiés à quelques secondes du terme de la rencontre par un dernier essai anglais. L'équipe de France concède sa première défaite en 4 ans face à des Anglais sur courant alternatif. Les regrets d'Antoine Dupont.
On peut s'en prendre qu'à nous. On a surtout la première mi-temps qui beaucoup de regrets, on doit marquer au moins 3 essais et le match est le même après. Ils ont été pragmatiques, ils ont marqué à chaque fois qu'ils sont venus chez nous. Et nous on a mangé trop d'occasions. On sait qu'à ce niveau-là, si on ne les met pas au fond, on ne gagne pas le match à la fin.
Avec ce coup d'arrêt, les Bleus disent déjà adieu à leur rêve de grand chelem. Remporter le tournoi de Destination passera par un sans faute en déplacement en Italie et en Irlande avant de recevoir l'Écosse.
Christopher Filhoc du service des sports d'Europe 1. De son côté, l'Italie a battu le Pays de Galles 22 à 15. Seuls l'Écosse et l'Irlande restent invaincus dans ce tournoi Destination. Les Écossais qui recevront ce soir les Irlandais. Match prévu à partir de 2h du matin, heure de Nouméa.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et sur les terrains de football, la 21e journée de Ligue 1 et Nice qui éjecte Monaco du podium. Les Niçois l'ont emporté aujourd'hui face à Lens sur le score de 2-0 pour dépasser les Monégasques battus hier par le PSG 4-1. Lille, en revanche, 5e du classement, s'est inclinée face au Havre 2-1. En bas de tableau, Rennes est allé battre Saint-Etienne 2-0. Conséquence, les Rennais font un bond à la 11e place, laissant la 15e position au FC Nantes d'Antoine Comboiré, qui a perdu hier face à Brest 2-0. Saint-Etienne est toujours 16e en position de barragiste.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le sport côté calédonien, c'est de l'athlétisme avec ce titre de championne de France sur 200 mètres décroché par Esther Wedjiem. Une performance réalisée à Nantes à l'occasion des championnats nationaux indoor et moins de 23 ans. Elle a réalisé un chrono de 24 secondes 15 centièmes en finale pour remporter son premier titre de championne de France. La record woman de Nouvelle-Calédonie sur cette distance, licenciée au club d'Amiens Université, avait réalisé une performance en encore meilleure en série, un chrono de 24 secondes 8 centièmes. Elle se concentre désormais sur les championnats de France élite qui auront lieu les 22 et 23 février prochains à Miramas, toujours en métropole. Sur le territoire, ils commencent à rêver du mondial. Les footballeurs de moins de 20 ans étaient convoqués pour le début de la présélection, alors que les Calédoniens s'étaient qualifiés l'année dernière pour la Coupe du Monde de leur catégorie d'âge qui se disputera au Chili du 27 septembre au 19 octobre. 32 joueurs étaient convoqués sur les terrains de la Fédération à Paita pour ce regroupement. Pierre Wadjoka, le coach de la sélection des moins de 20 ans, les a prévenus. Ce mondial arrive très vite pour une équipe qui souhaite faire bonne figure.
C'est assez loin, mais en même temps, c'est prêt. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà se préparer, parce que pour faire une telle compétition, il faut se préparer déjà en amont. Surtout, on est le petit poussé. Les joueurs ont hâte. Après, c'est vrai que derrière, maintenant, il y a une certaine aussi, il y a une grosse concurrence, parce qu'on est une quarantaine de joueurs, ils sont au moins 40, mais pour que 21 places. Je leur ai dit que ça fait partie de la compétition.
Et j'ajoute que les tirages au sort pour connaître les groupes de ce Mondial 2025 des moins de 20 ans organisé au Chili auront lieu au mois de mars. Il est midi passé de 30 minutes, c'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'info à 13h. Je vous souhaite de passer une belle après-midi, toujours sur RRB.